Radio Okapi, un partenariat entre la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo et la Fondation Hirondé. Avec le soutien des gouvernements de Suisse, de Grande-Bretagne, de France, de Suède, d'Allemagne et de Belgique.
Voilà, comment fabriquer de la peinture? Nous en parlons avec Jules Dembé, ingénieur chimiste, qui est déjà dans ce studio. Bonjour, monsieur Jules.
Bonjour, bonjour.
Voilà, vous voulez rendre votre maison attrayante. Une bonne peinture va résoudre ce problème. Cependant, les prix de ces produits demeurent relativement chers sur le marché. Cependant, vous avez la possibilité d'en fabriquer sur base de certaines solutions. Quels sont les éléments qui entrent dans la fabrication d'une peinture? On en parle avec l'ingénieur Jules Dembé. Qu'est-ce qu'il faut pour fabriquer de la peinture?
Merci, c'est toujours un plaisir de vous retrouver.
La peinture est partagée.
La peinture, par définition, est un produit liquide qui est composé d'un liant, de pigments et d'un solvant. Alors, suivant le type de peinture qu'on veut fabriquer, les liants diffèrent quelque peu. Disons que pour la peinture à eau, généralement le liant, c'est pour essayer que la plupart de nos auditeurs comprennent. Le liant, c'est de l'alcool. Et pour la peinture à huile, le liant, c'est la résine. Un type de résine. Et à ce liant, il faut ajouter des pigments. Et aux pigments, il faut ajouter un solvant. Voilà les trois composés. Qui constitue maintenant votre peinture. Maintenant, cette peinture, il faut la façonner, il faut la fabriquer.
Oui.
Il faut la diluer dans l'eau, suivant qu'on a une peinture à eau. Et il faut la diluer dans un solvant pétrolier, suivant qu'on a une peinture à huile. Mais à cela, il faut aussi ajouter d'autres additifs, des adjuvants qui améliorent la qualité de la peinture, parce que une peinture à eau, il faut la conserver. Ça se peut que si la conservation dure un peu trop longtemps, la peinture se dégrade, donc il faut mettre un conservant. Il faut y mettre aussi des certaines charges pour réduire le coût, parce que vous avez parlé de coût.
Du coup,
bref, donc il y a tout ça qu'on met dans un malaxeur pour avoir la solution, l'émulsion voulue, qu'on appelle peinture.
Voilà. Et on voit souvent à travers la cité des jeunes gens avec des tonneaux, peinture en vente ici, et ils en fabriquent eux-mêmes. Donc pour le faire, on peut le faire chez soi à la maison en ayant les trois composants dont vous venez de faire allusion.
Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est de fabrication tout à fait artisanale.
Artisanale,
pour la comparer à industrielle. Donc, on peut la faire à la maison parce qu'il suffit d'avoir ces composantes et de les mélanger. Mais le grand problème, c'est la qualité du mélange. C'est pour cela qu'il est préférable d'utiliser un certain dispositif pour pouvoir mélanger et avoir la finesse requise à notre peinture.
Voilà, nous avons en ligne Jacques depuis Goma. Bonjour Jacques.
Bonjour monsieur le journaliste et bon week-end à vous.
Merci pareillement. Quelle est votre préoccupation?
Ok, surtout ma préoccupation est celle-ci. Comme nous parlons de la peinture, je voulais savoir à notre invité s'il arrivait que quelqu'un ne prépare pas la peinture de soi localement. Est-ce qu'au niveau de la boutique, comment est-ce qu'il peut savoir que non, c'est ça la meilleure qualité de la peinture et c'est ça qu'il ne faudrait pas employer?
Oui, M. Jacques, bonjour et merci pour la question. Si vous ne formulez pas votre peinture, mais vous allez acheter de la peinture, c'est au vendeur maintenant de vous vendre un produit de qualité. Mais toujours est-il que vous avez la possibilité d'apprécier la qualité de la peinture. Mais pour l'apprécier, il faut que vous-même vous connaissiez c'est quoi la peinture et elle se présente sous quelle forme. Sinon, il m'est difficile de vous dire que, du moins au niveau de la radio ici, de vous montrer une peinture de qualité et une peinture de qualité moindre.
Peut-être les éléments qui peuvent vous enseigner.
Les éléments qui peuvent renseigner. Au magasin, vous avez déjà de la peinture fabriquée. C'est-à-dire, à ce moment-là, il faudrait que le vendeur vous donne sa formulation, vous explique que non, voilà, ma peinture, je l'ai faite à partir, à base de tel élément, parce que la matière première à partir de laquelle vous avez formulé votre peinture peut déjà vous renseigner sur la qualité du produit fini. Donc, à partir de cet instant, si le vendeur vous donne des éléments quant à l'origine, la qualité, la quantité de la matière première qu'il a utilisée pour formuler sa peinture, vous pouvez réagir en disant, eh ben, à base de cette formulation, je crois que cette peinture est une peinture de qualité. Mais évidemment, il ne vous le dira pas. Lui est un vendeur, il vous dit que je vends la peinture, c'est à vous de l'apprécier. Une fois que maintenant vous l'avez appliquée, vous allez constater que cette peinture est bonne ou mauvaise. À quoi vous allez le constater ? Dans l'application, il y a des peintures qui sont tout à fait une peinture à eau qui est trop liquide. C'est-à-dire que bon, la rhéologie, c'est-à-dire l'application, l'écoulement de la peinture peut déjà vous renseigner sur les charges qui ont été utilisées pour formuler cette peinture. Si c'est un latex blanc, la blancheur de cette peinture peut déjà vous renseigner sur le type de pigment qui a été utilisé pour formuler cette peinture. Oui. Même si elle est colorée, vous verrez que certaines peintures, parce que la peinture, n'oubliez pas, elle a deux rôles essentiels. D'abord, un rôle protecteur et un rôle décorateur ou décoratif. Donc, si maintenant vous appliquez une peinture...
Qu'est-ce qu'elle protège en passant ?
Elle protège la surface sur laquelle elle est appliquée. Oui. Par exemple, des peintures peintures anti-rouille. Mmh. Donc, ça empêche à ce que le métal sur lequel elle est appliquée, ça empêche à ce que ce métal...
soit attaqué par la rouille.
Soit attaqué par la rouille. Vous comprenez ? Et un rôle décoratif, évidemment, une maison peinte est toujours plus belle qu'une maison non peinte.
Tout à fait. Hein?
Donc, je crois que c'est là-dessus que quelqu'un peut apprécier la qualité de la peinture qui vient d'acheter. La résistance aussi, hein? Vous voyez, la résistance de la peinture aux intempéries. Ça aussi, c'est de la protection.
Oui, il y a certaines personnes, certains murs, surtout, on applique le chaud, c'est ce que, et juste après, une pluie ou deux, une deuxième, c'est fini, tout est parti.
Ben, voilà, hein, là, c'est si tout est parti, donc, il y a une propriété de la peinture qui consiste à une bonne adhérence sur le support, cette propriété n'a pas été respectée. N'a pas été respectée parce que, de par la formulation, on n'a pas mis suffisamment de produits pouvant favoriser l'adhérence de la peinture sur le support.
Certains disent qu'il faut mettre un peu de sel pour...
Oui, ça ce sont des formulations qui ont prévalu pendant l'époque coloniale et que qui sont toujours utilisées aujourd'hui.
Oui.
Mais la chaux n'est pas utilisée pour une peinture de maison intérieure, à moins que il y a des formulations adaptées, hein, qu'on formule par exemple de la chaux latex. Ce sont des types de peintures parce que il faut toujours voir le coût. Hein? Il faut toujours voir le coût. Hein? On peut formuler ce qu'on appelle la chaux latex. Donc, c'est une peinture de qualité acceptable, mais de coût tout à fait inférieur, de faible coût, hein, et qui vous permet, en termes de qualité, justement, ça répond aux propriétés que j'ai énumérées ici, une bonne adhérence sur le support, une bonne blancheur, et un coût acceptable.
Radio Okapi, Okapi.
Pour participer à Okapi Service, appelez au 081 890 63 94 et envoyez vos SMS au 081 070 20 50 ou bien écrivez-nous à action@radiookapi.net.
Okapi. Voilà, vous avez parlé des trois composantes. Si vous pouvez faire un petit rappel.
Le liant.
Les liants.
Le pigment.
Oui.
Et le solvant.
Liant, pigment.
Et solvant.
Et solvant. Alors, les liants, c'est...
Les liants, c'est ce que j'ai dit, ce qu'on appelle comme la colle. La colle. Le liant, justement, c'est lui qui permet, après application, qu'un film se... se produisent. Mmh. C'est-à-dire, ça permet un meilleur étalement de la peinture sur le support, oui. Parce que c'est de la peinture à eau. Vous l'étalez sur le support, mais comment pensez-vous qu'elle va adhérer sur ce support? Justement, il faut ce liant-là, hein, qui permette que la peinture adhère sur le support. Après évaporation de l'eau, mmh. Eh ben, il reste un film, on appelle ça un film de peinture. Et puis, il y a le pigment. Le pigment, ce sont des particules solides, oui. Finement pulvérisées, hein, et qui ont la propriété de conférer une coloration à notre peinture.
Oui.
Suivant maintenant le type de pigment, vous avez du rouge, du vert, du blanc, et puis voilà. Et ensuite, vous avez le solvant.
Le solvant.
Le solvant, c'est le bain dans lequel tout cela, le liant, le pigment, va plonger. Le solvant permet une bonne dispersion de tous ces éléments.
Donc c'est de l'eau, par exemple.
C'est de l'eau pour la peinture à eau.
Oui. Mmh.
Il y a d'autres une gamme de solvants pétroliers qu'on peut utiliser pour la peinture à huile. Hein? Donc, mais ici, on utilise même le pétrole, ça ne dérange pas, c'est à moindre coût,
oui.
Hein? Mais il y a d'autres substances, hein, qui sont utilisées pour des peintures de meilleure qualité, et tout ça, qui font office de solvant. Ce sont généralement des produits pétroliers, hein? Ça c'est pour la formulation de la peinture à huile.
Oui.
Et puis, j'ai dit, il y a différents adjuvants, des additifs, hein, qu'on ajoute pour améliorer telle ou telle propriété de la peinture. La peinture, comme je l'ai dit, peut se dégrader en cours de conservation, de
oui.
Stockage. La peinture peut se dégrader. Eh ben, on y ajoute des conservateurs. La peinture peut la peinture à huile, par exemple, peut produire une peau en surface. Lorsque vous l'avez reconditionné dans votre boîte,
oui.
Après un certain temps, vous verrez qu'il y a une croûte qui se forme.
Mm-hmm.
Et ben, il y a des produits qui sont utilisés pour empêcher la formation de cette croûte. Mais aujourd'hui encore, il y a de plus en plus d'autres formulations. Il y a des peintures, même des peintures insecticides. Vous comprenez?
Mm-hmm.
Donc, c'est une peinture dans laquelle on a ajouter un principe insecticide, et ça vous permet aussi de combattre
les moustiques. Autres insectes.
Les moustiques et les autres insectes volants.
Voilà, ouais. Voilà. Monsieur Chilumba est en ligne de Pumbujumai. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, je voudrais moi demander si on peut fabriquer artisanalement de la peinture, et si oui, quels sont les ingrédients qu'on peut utiliser?
Monsieur Chulumba, merci pour la question. Oui, on peut utiliser artisanalement la peinture. Parce que la fabrication de la peinture a commencé artisanalement et puis s'est développée industriellement. Donc les ingrédients, c'est ceux que je viens d'énumérer ici. Pour être un peu plus détaillé, par exemple pour la peinture, peinture à eau.
Pierre de France, souvent on entend parler.
Pierre de France, c'est une coloration.
C'est une coloration, oui.
Pierre de France, c'est une coloration.
Oui.
Mais pour faire justement, allons-y dans votre pierre de France.
Oui.
Bon. Alors, vous utilisez de l'eau, vous utilisez le liant, vous avez la colle,
mm-hmm.
Vous utilisez des pigments, dioxyde de titane, hein. Vous utilisez certaines charges comme la calcilou. La calcilou, vous utilisez un produit qu'on appelle l'atylose, ça ce sont des noms commerciaux, mmh. Mais ce sont des produits qui ont comme fonction de modifier la rhéologie du produit, donc un épaississant,
oui.
Hein, c'est un épaississant, ça donne de la consistance à votre peinture. Vous utilisez...
Alors là, il faut quelle quantité pour chaque élément?
Oui, là nous sommes dans des formulations,
oui. Hein,
dans des formulations, avec votre permission, je préfère que pour les formulations, même en hors antenne,
oui.
On puisse avoir, les auditeurs, ils peuvent nous appeler pour certaines formulations.
D'accord.
Oui. Alors, lorsque vous avez justement tous les produits, j'ai donné le dioxyde de titane, la calcilou, la stylose, la colle, vous avez maintenant de l'ammoniac pour la conservation du produit, ou bien du pentachlorophénate de sodium, que c'est un produit qui permet la conservation de votre peinture, empêche la dégradation de la peinture. Alors voilà un peu, ça c'est pour faire une formulation artisanale, mais c'est la même, ce sont les mêmes composantes qui sont utilisées pour faire une formulation industrielle. Donc vous comprenez. Et maintenant la différence, c'est qu'artisanal, généralement les gens le font, l'agitation se fait à la main. Les gens le font à la main. Par contre, à l'industrie, ça se fait à l'aide d'un malaxeur, que c'est une tige composée de palettes qui est entraînée par un moteur. Mais c'est toujours mieux, parce que lorsque vous faites à la main, vous n'avez pas toujours la même vitesse de rotation, cela influe sur la qualité de la peinture en termes de consistance, de cohésion. Vous comprenez, la peinture doit avoir une certaine cohésion. C'est ce que vous appliquez au début doit être la même, c'est la même qualité que jusqu'à la fin. Mais si la peinture, tout ce mélange là n'est pas bien agiter, vous verrez à un certain moment ça coupe. Et puis voilà quoi.
Alors nous allons recevoir un ordre depuis David qui nous appelle depuis Bounia. Bonjour David.
Bonjour monsieur le journaliste.
On vous écoute.
En fait, j'ai une préoccupation par rapport à l'utilisation de la chaux. On l'appelle chaux éteinte ou quoi. La chaux qu'on a l'habitude d'utiliser pour peindre la maison en blanc quoi.
Oui.
Alors il y a des bleus qui circulent selon quoi. Lorsqu'on utilise des chaux pour peindre une maison où on allume, je sais pas, de braseron ou de bois, c'est dangereux parce que ça peut asphyxier les gens qui y passent la nuit. Je voulais juste avoir des questions par rapport à cela, si ce sont des spéculations ou ça s'explique scientifiquement. Voilà un peu ma préoccupation.
Merci pour votre... Excusez-moi. Merci pour votre question. La chaux qui est utilisée, c'est évidemment c'est de la chaux éteinte, c'est pas de la chaux vive, parce que vous allez la mélanger dans de l'eau, suivant la formulation de la chaux vive, de la chaux éteinte, la chaux vive devient éteinte lorsqu'elle est mélangée à l'eau. Bon, il n'y a pas un potentiel d'inflammabilité lié à la chaux éteinte. Par contre, l'inflammabilité est plutôt sur certaines peintures à huile, qui elles sont diluées dans des solvants pétroliers et à certaines températures, effectivement, ces peintures peuvent s'inflammer. C'est ainsi que lorsque vous avez appliqué une peinture à huile, allez, je vais vous donner un exemple. Dernièrement, on était en train de peindre une citerne, et à l'intérieur, il faut mettre un produit, une époxy alimentaire, une citerne qui doit conserver de l'eau.
Oui.
Mais pendant qu'on peignait, on procédait aussi à des travaux de soudure. Eh bien, tout simplement, la peinture s'est inflammée. C'est inflammé parce que bon, justement, il faut éviter ce genre d'action, peindre pendant qu'il y a à côté d'une source une source de chaleur.
Oui.
Et bon, mais la préoccupation de notre auditeur de Bounia qui laisse ses apaisements, il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas de problème. Mais il y a certaines personnes disent que par exemple pour l'intérieur de la maison, il faut pas mettre une peinture d'huile parce que ça dégage de la chaleur.
Oui, je crois que ça se comprend de soi. Dans un salon, vous n'allez pas mettre une peinture à huile parce que effectivement, la peinture à huile ne respire pas et elle absorbe plutôt toute la chaleur qu'il y a dans la pièce, et par ce fait-là, il fait trop chaud dans une salle où qui est peinte avec la peinture à huile. Par contre, la peinture à huile est plus facilement lavable que la peinture à eau. Mais de plus en plus, nous formulons des peintures à eau qui sont lavables, hein, qui sont lavables à eau aussi, hein. Donc là, c'est l'art du peintre, hein, ce sont des formulations qui que nous pouvons tout à fait adapter, et les peintures à huile sont plutôt appliquées dans des
pour
endroits
pour les maisons climatisées par exemple.
Oui, mais bon, allez, vous climatisez, vous chauffez votre maison pour la climatiser ou une maison est climatisée.
Il semble que ça, la peinture à huile, ça a une bonne qualité et ça présente une bonne qualité par rapport à la peinture à eau.
Non, ça, ce sont les habitudes. Aujourd'hui, on vous formule des peintures à eau tout à fait de qualité, tout à fait acceptable, et qui vous donne même l'illusion que c'est une peinture à huile. Aujourd'hui, il y a des peintures à eau qui sont très bien formulées, et pour l'intérieur de la maison, justement pour éviter à ceux que ça transpire, mettez de la peinture à eau. Dans certaines pièces où le lavage, par exemple dans la cuisine, où il y a des endroits où les murs sont plus sollicités par les jets des huiles et tout, mettez de la peinture à eau de sorte que ce soit plus facilement lavable. Hein, mais je crois que il n'est pas très, très conseillé de peindre votre salon avec une peinture à huile.
C'est bon pour l'extérieur de la maison.
Même pour l'extérieur de la maison, vous pouvez mettre des peintures à eau résistant aux intempéries.
Si je comprends bien, alors la peinture à huile n'est pas tellement recommandée.
Elle est appliquée pour des endroits bien spécifiques.
Tels que?
Oui, ben lorsque les rebords des fenêtres, hein, les cornières, tout ça, vous mettez de la peinture à huile. Les portes métalliques, vous pouvez mettre de la peinture à huile, parce que c'est plus facilement lavable, et puis ça présente, par différence avec la peinture à eau, ça présente un éclat qui vous donne l'impression de plus beau. Tout simplement, mais ce n'est pas particulièrement parce que la peinture à huile est meilleure que la peinture à eau. Non, c'est un choix, mais quoi que vous pouviez mettre dans votre salon de la peinture à eau, peinture à huile, hein, c'est votre choix. Mais bonjour la chaleur.
Alors, pour un salon par exemple, quel type de couleur il faut mettre? Est-ce qu'il y a des types de couleurs qui sont recommandés pour un salon par exemple?
Les types de couleurs, non, les goûts et les couleurs, mon frère, je crois que ça dépend de tout un chacun. Mais dans un salon,
il y a quand même des standards.
Des standards. Bon, il y a des gens qui aiment la couleur Pierre de France, qui fait un peu blanc cassé. Il y a des gens qui aiment carrément le blanc absolu dans leur salon. Il y a des gens qui aujourd'hui, avec tous les films nigériens que nous regardons à la télévision, il y a des couleurs vives qui correspondent. Maintenant, ça, ce sont les tendances du moment. Hein. Ce sont les tendances du moment. Parce qu'on voit même des maisons qui sont peintes en jaune. À l'extérieur, il y a des maisons jaunes. À l'intérieur, les murs sont orangés. Bon, ben voilà.
Avant, c'était pas le cas.
Avant, c'était pas le cas. Les gens étaient dans des standards, comme vous le dites. Oui. Ils préfèrent des maisons classiques, maisons murs blancs. Et puis voilà, quoi. Et un peu blanc cassé. Voilà un peu les tendances. Parce que bon, vous n'allez pas peindre votre salon en rouge ou en noir. Mais quoi que, c'est un droit. Hein. Donc,
Voilà, c'est sur cette note qu'on va se dire au revoir. Jules Dembe, nous rappelons que vous êtes ingénieur chimiste. Merci d'avoir répondu à notre invitation et bon début de week-end.
À moi aussi de vous remercier et bon début de week-end pour vous aussi.